Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour, bienvenue à l'auditorium de Radio France. Nous nous intéressons aujourd'hui à une œuvre merveilleuse, le tombeau de Couperin, une œuvre signée Maurice Ravel. Alors Maurice Ravel, c'est aujourd'hui le compositeur français le plus joué en France et à l'étranger. Pensez au jeu d'eau, à la pavane pour une infante défunte, pensez à Daphnis et Chloé ou au boléro. Le tombeau de Couperin, c'est l'œuvre emblématique de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'elle est composée pendant le temps de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1917, elle a été éditée en 1918, jouée pour la première fois au piano Salgavo en 1919, puis enfin orchestrée en 1920. La guerre a particulièrement marqué Maurice Ravel, qui conduit des camions sur le front à Verdun. Au départ, il n'aurait pas dû faire la guerre. Il avait été réformé, trop petit, trop maigre, mais il a fait beaucoup de démarches administratives pour pouvoir rejoindre le front. Et ce ne sera qu'après une opération et après la mort de sa mère, à la toute fin de la guerre, qu'il va terminer enfin le tombeau de Couperin. Le tombeau de Couperin, c'est un ensemble de pièces. Dans la version pour piano, elles sont 6. Dans la version pour orchestre, elles sont 4. Et chacune de ces pièces est dédiée à l'un de ses amis mort au front. Alors bien sûr, ce qui peut paraître un peu énigmatique, c'est ce titre, « Le tombeau de Couperin ». Bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par le mot de tombeau ? Alors du côté de la musique classique, un tombeau, eh bien, c'est un hommage que l'on fait à un autre compositeur mort bien évidemment, qui peut être un compositeur mort récemment ou à un compositeur du passé que l'on admire. Et Ravel admire particulièrement François Couperin et sa musique. François Couperin, l'un des grands compositeurs français du XVIIIe siècle. Le tombeau, c'est donc, comment dire, un monument, mais un monument de son, un monument de musique. Pas un tombeau comme on ferait un tombeau dans un cimetière, non, un hommage. Au fond, on pourrait appeler ça, non pas le tombeau de Couperin, mais hommage à Couperin. Mais enfin, tout de même, on va dire, quel rapport avec la guerre ? Ben, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi quelque chose d'un petit peu nationaliste dans tout cela. C'est quand même la guerre avec l'Allemagne. Et Ravel a besoin de réaffirmer la tradition, l'intérêt, la richesse, la grandeur de la musique française. Un hommage au XVIIIe siècle, un hommage à la musique française. Il en existe deux versions, une version pour piano et une version pour orchestre. Vous vous en doutez bien avec la présence de tout l'orchestre philharmonique de Radio France. C'est maintenant à la version pour orchestre que nous nous intéressons. Nous allons donc maintenant entrer dans le vif du sujet. 4 pièces composent cette suite orchestrale du tombeau de Couperin. La première de ces 4 pièces est tout simplement le prélude, un prélude que je vous propose maintenant de découvrir sous la direction de Pascal Roffet.
Thank you.
Merci beaucoup, c'était le délicieux prélude de la suite pour orchestre, le Tombeau de Couperin, une suite signée Maurice Ravel. Et alors, en l'écoutant, je me disais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un prélude ? C'est très difficile de vous dire ce que c'est qu'un prélude. Un prélude, c'est en général ce qui commence une pièce, mais il y a des préludes de Bach, il y a des préludes de Chopin, il y a des préludes de Debussy, il y a des préludes de tout un tas de compositeurs, et il arrive même que certains compositeurs, je viens justement de citer Chopin et Debussy, aient pu écrire des préludes qui ne préludaient à rien. Voilà, c'était juste un morceau de piano comme cela. Mais il y a quand même, puisque Ravel a décidé de rendre hommage au XVIIIe siècle, il y a quand même beaucoup de préludes qui font entendre une sorte de mouvement perpétuel, comme vous venez de l'entendre, hein, ce moulin incessant, je ne sais pas si il vous a marqué, mais ce moulin qui se déploie, hein, qui change, ça me fait penser, ben, comme prélude on connaît évidemment, voilà, un autre mouvement continu, prélude de Bach en ut majeur, ou autre prélude de Bach. Des doubles croches qui courent comme ça et avec ce côté un peu répétitif, vous voyez ? Tiens, on dirait presque du Steve Reich. Seulement voilà, dans un prélude pour piano ou pour clavecin, le mouvement continu est toujours confié au même instrument. Tandis que, justement, là, ce que vous venez d'entendre dans l'orchestration de Ravel, c'est le plaisir qu'a pris le compositeur à faire circuler ce moulin tournoyant de triolets de double croche à tous les pupitres de l'orchestre. Tenez, par exemple, au début, on a entendu le motif, à un moment, joué par les hautbois et les clarinettes, souvenez-vous. Un peu plus loin, je vous propose d'écouter ce même tournoiement de double croche, mais plutôt joué par les violons de l'orchestre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a le confort de la répétition et le plaisir du changement. C'est un peu ce que nous cherchons tous, hein, dans la vie, d'avoir à la fois le plaisir de la continuité et le plaisir de la surprise. Tenez, un peu plus loin, on pourrait l'écouter maintenant par les clarinettes, tiens. J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais petit, qu'on m'emmenait au concert et que j'avais toujours envie de sauter sur la scène et de dire au chef d'orchestre en le tirant par la manche « On peut refaire là le passage, je pourrais réécouter le corps, les contrebasses ?» Et évidemment, je ne le pouvais pas et maintenant je peux le faire, c'est vraiment formidable. On peut avoir ce même mouvement continu, mais par les hautbois, tout à fait dans l'aigu. Et puis alors, il y a un instrument que je ne peux pas ignorer parce qu'il est juste à ma droite. Peut-être que Delphine va nous faire entendre ce motif au glouglou de la harpe solo. Et enfin, peut-être écouter la toute fin de la pièce. Donc ce sont les cordes qui font le moulin de double croche et qui vont entraîner dans leur crescendo tout le reste de l'orchestre. J'adore, on dirait un coup de vent et puis le vent retombe et hop, il s'élève une dernière fois à la fin. Alors maintenant que nous avons pris connaissance avec le prélude, nous allons pouvoir passer à la suite du Tombeau de Couperin. Et en fait, la suite, c'est trois danses, puisqu'il s'agit au fond d'une suite de danses. Alors je dois vous dire d'abord que Ravel était vraiment quelqu'un qui adorait la danse. On peut presque dire que la moitié de l'œuvre de Ravel repose sur des danses. Et alors on se demande bien quelle va être la première danse du Tombeau de Couperin. Et c'est là qu'on tombe sur une danse vraiment très peu connue, enfin en tout cas pas de moi, la forlane, une vieille danse, une danse ancienne, une danse vénitienne. Alors pourquoi est-ce qu'en 1914, tout d'un coup, Ravel a l'idée d'écrire une forlane? Eh bien déjà, il y a cette idée d'hommage à Couperin. Ça s'appelle le tombeau de Couperin. On trouve quelques forlanes écrites par Couperin. Mais il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'il y avait à ce moment-là un grand débat sur la forlane, et voici pourquoi. Le pape, sa sainteté lui-même, le pape Pie X, s'était un peu ému des progrès du tango. Il trouvait que c'était une danse pas comme il faut. Trop licencieuse, trop voluptueuse, enfin bref. Un jour, il avait dit, on ferait mieux de s'intéresser à la forlane, parce que la forlane, c'était une danse ancienne de son pays. Il était originaire de Vénétie, et il trouvait que ça, c'était vraiment une danse comme il fallait. Alors du coup, eh bien, les journaux s'en sont donnés à cœur joie, pour ou contre la forlane, et involontairement, le pape a failli lancer la mode de la forlane. Et on trouve des lettres très amusantes de Ravel, qui dit, au moment où il écrit sa forlane, en ce moment, je turbine pour le pape. Et toutes les revues un peu à la mode, les magazines féminins, font des articles sur cette histoire de la forlane. Et alors cette forlane, elle se caractérise par un petit rythme qu'on retrouve toujours et qui est vraiment le noyau rythmique de cette danse et qui fait pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vous voyez, c'est très élégant, c'est très gracieux. Tenez, je vous propose qu'on écoute le tout début de la forlane. Voilà, ce sont les premières mesures de la forlane du tombeau de Couperin, donc la forlane de Ravel. Et je vous ai dit tout à l'heure que Ravel, avant d'écrire le tombeau de Couperin, s'était donc évidemment plongé, replongé dans les œuvres de Couperin. Et bien sûr, il connaissait les forlanes de Couperin. Il y en a une qui l'a particulièrement inspiré. Mais je vous propose de vous rendre compte par vous-même à quel point Ravel a vraiment mis ses pas dans ceux de Couperin, à quel point sa forlane, avec son instrumentation, avec ses accords, mais tout de même, suit pas à pas la composition de Couperin. Pour cela, je vous propose la petite expérience suivante. L'orchestre va vous jouer un extrait de la forlane de Ravel, et tout de suite après, je vais vous montrer à quoi ça correspond dans la pièce de François Couperin. L'extrait de Ravel à l'orchestre et maintenant la pièce de François Couperin au piano. Oui, mais alors vous allez me dire, d'accord, on voit bien le rapport mélodique-rythmique, mais enfin tout à l'heure, quand on a écouté le début de la forlane, on n'avait pas l'impression d'écouter une pièce de la première moitié du XVIIIe siècle. Oui, pour plusieurs raisons, et la principale, c'est les accords qu'utilise Ravel. Parce que vous savez, en musique, on parle toujours du rythme, on parle des instruments, on parle des mélodies, c'est normal, les mélodies c'est ce qu'on retient, le rythme évidemment c'est ce qui nous donne envie de bouger, les instruments au concert on les voit et on est content de repérer le hautbois, le basson, la harpe, le violon qui joue, mais il me semble que l'âme de la musique c'est tout de même l'harmonie, c'est-à-dire le choix des accords. Et les accords de Ravel dans cette forlane sont un peu particuliers, ils sont épicé, acidulé, citronné même, je dirais. Alors, je ne peux pas vous faire une petite leçon d'harmonie, mais je vous donne juste deux, trois indications. Vous voyez, si je prends un accord de la mineur, eh bien, dans la forlane, Ravel rajouterait certainement une petite épice, la septième et la neuvième, et ça donnerait ça, qui est quand même plus épicé que le simple accord de la, avec la septième et la neuvième. Même chose, au lieu d'enchaîner, si on entend ça partout, Ravel ferait plutôt. Vous entendez ces accords plus riches, plus acidulés. Tenez, il y a un passage où la mélodie de la forlane, eh bien, si je l'harmonisais très simplement par deux accords, ça donnerait ça. On dirait la musique d'Amélie Poulain un petit peu. Avec Ravel, écoutez comme il s'amuse à rajouter des petites notes qui frottent. Et je crois que c'est cette utilisation d'accords un peu chargés avec des petites dissonances, d'accords épicés, citronnés, acidulés, comme j'ai dit tout à l'heure, qui donne cette couleur particulière à la forlane. Et je pense que maintenant, nous avons mérité d'écouter d'un bout à l'autre la forlane de Ravel.
Thank you.
Maintenant, je voudrais peut-être qu'on se penche sur cette histoire d'orchestration, parce que vous vous souvenez, je vous ai expliqué que le tombeau de Couperin, au départ, c'était une suite de 6 pièces écrites pour le piano. Et dans un deuxième temps, Ravel l'a orchestré. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on fasse une petite expérience avec la pièce suivante, qui est un menuet, un exercice de comparaison entre la version pour piano et la version pour orchestre. À chaque passage, eh bien, je vais commencer par vous jouer l'original pour piano et tout de suite après, l'orchestre va enchaîner. Donc vous allez pouvoir vraiment vous faire une idée de ce dont je vous parle, le plaisir de passer du piano à l'orchestre, de ce que je pourrais appeler la version noir et blanc et la version en couleur. Après cette expérience étonnante, quelques mots sur le menuet, parce qu'au moment où Ravel écrit un menuet, vous pensez bien, on est au début du XXe siècle, que plus personne ne danse le menuet. Le menuet a été abandonné depuis bien longtemps, c'était plutôt la danse reine du XVIIe et du XVIIIe. Le menuet du XVIIIe, souvenez-vous, c'était, pour ceux d'entre vous qui ont fait du piano, peut-être ils ont joué cette pièce. Dans le petit livre d'Anna Magdalena Bach, qui n'est pas de Bach. Attention, cette pièce n'est pas de Bach, hein, c'est une pièce de Christian Petzold. On l'attribue toujours à Bach. Bach l'avait recopiée pour que sa femme puisse le jouer, mais ce n'est pas une pièce de Bach. Je pourrais aussi vous citer un autre menuet dans la même tonalité de sol majeur, la tonalité justement du menuet du tombeau de Couperin de Ravel, le fameux menuet de la petite musique de nuit de Mozart. Et enfin, nous en arrivons à notre menuet du tombeau de Couperin. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Souvent, les danses dans les suites vont par deux. Ça n'a pas été le cas de la Forlane, mais si vous regardez les menuets de Mozart, les menuets de Haydn, les menuets de Beethoven, vous avez souvent un premier menuet suivi immédiatement d'un second menuet. Ravel ne va pas écrire deux menuets de suite, il va écrire un menuet suivi d'une musette. Ah, alors la musette. Eh bien, la musette, c'est une danse ancienne et elle doit son nom, bien sûr, à l'instrument, la musette. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une petite cornemuse du centre de la France, composée évidemment des fameux tuyaux qu'on appelle les hautbois et puis du sac en peau avec l'air qui permet de faire sonner ces tuyaux. Et donc, la musette est une danse à trois temps, une danse que l'on trouve également dans les suites de François Couperin. Je vous joue ce qui, à mon avis, a été la musette qui a inspiré Ravel, qu'on trouve dans l'un des concerts royaux de Couperin, alors toujours avec cet accompagnement très caractéristique. Seulement, naturellement, Ravel ne va pas écrire une musette ni populaire, ni une musette à la François Couperin. Il s'en inspire, mais il imagine tout de suite une musette plus douce, plus voilée. Déjà, il va utiliser le mode mineur. Sol mineur, enfin un mineur très particulier parce que la sixte reste quand même majeure. La tierce est mineure, mais la sixte est majeure. Comme s'il y avait un peu de soleil à travers la pluie. Un mode aigre-doux, majeur-mineur. Et puis, il va la confier non pas au hautbois, mais à un mélange d'instruments peut-être plus étonnant. Vous savez, normalement, si on veut imiter la musette, cette petite cornemuse dont je vous ai parlé, du centre de la France, ça serait logique à l'orchestre de se servir du hautbois. Seulement, le hautbois, faut quand même pas tout lui donner. Il a déjà été le roi du menuet. Et on vient d'avoir le menuet qui va s'enchaîner avec la musette. Alors, vous allez entendre maintenant le thème que je viens de vous jouer de mon piano, le thème en mineur majeur. Vous allez l'écouter dans l'orchestration prévue par Ravel, donc avec la flûte, les deux clarinettes et le basson. Tout de suite après, le thème est repris de manière un tout petit peu plus corsée, toujours les deux clarinettes, mais dans l'aigu, la trompette avec sourdine, et dans le grave, le cor avec sourdine. Cela donne... Et maintenant, parlons de l'accompagnement. Vous savez, dans les thèmes de musette que je vous ai joués tout à l'heure, il y avait toujours ce qu'on appelle le bourdon. C'est ça qui fait tout le caractère un peu populaire de la musette. Alors, le bourdon à l'orchestre, eh bien, il va être un peu plus raffiné que ce que je viens de faire. C'est un bourdon plus élégant, plus mobile. Ravel imagine de prendre deux violoncelles pour planter la quinte grave, comme ça, nian, nian. Et puis il y a deux autres violoncelles qui font des pizzicatos, tong, 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 tong. Et enfin, les contrebasses qui font une petite caresse avec des sons très flûtés qu'on appelle des sons harmoniques. Les trois ensemble, cela donne ce joli bourdon mobile. Vous entendez bien la tenue des violoncelles, d'autres violoncelles qui font des pizzicatos, la contrebasse en harmonique. Ça, c'est pour accompagner le thème, vous savez, flûte de clarinette et basson. Mais quand le thème devient un peu plus corsé, avec les cuivres, pour maintenir l'équilibre entre l'accompagnement et le thème, il faut que Ravel rajoute un petit quelque chose. Ce sera la harpe et les pizzicatos de violon. Ce qui donne... Merci beaucoup. Maintenant, je mets ensemble le thème de la musette et l'accompagnement, le bourdon et la musette en même temps. Donc, vous suivez bien avec les deux versions successives du thème et le bourdon qui va aller en se renforçant, ce qui donne... Et en l'écoutant, vous vous rendez compte qu'il y a un petit voile de tristesse qui se fait jour. Je pourrais faire un mauvais jeu de mots en disant c'est normal puisqu'il y a un accompagnement avec le bourdon, donc on a un petit peu le bourdon. Mais je crois aussi que même si Ravel n'a pas écrit une œuvre qui était en rapport direct avec la guerre, peut-être qu'il y a un moment où forcément un peu d'inquiétude, une petite montée d'angoisse doit se faire jour. Peut-être qu'aussi c'était la personnalité de Ravel, hein, qui était très contenue, toujours tirée à quatre épingles, ne parlant jamais de sentiments personnels. Mais enfin, il devait se passer des choses à l'intérieur, et vous allez vous en rendre compte maintenant. Il y a une petite montée d'angoisse, toujours sur ce sol et ré grave, hein, ce bourdon, cette note immobile, mais qui va permettre... le seul moment du tombeau de Couperin où, me semble-t-il, un sentiment subjectif, personnel, une inquiétude, une petite angoisse apparaît dans la musique. Après quoi, Ravel chasse les nuages et fait entendre une dernière fois le thème de sa musette, mais cette fois-ci dans le mode majeur, tout doucement, joliment, aux cordes. Et puisque nous sommes retournés dans le mode majeur, nous sommes en sol majeur, nous allons pouvoir réécouter le thème du menuet. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'une danse, c'était souvent deux danses. Là, il y a le menuet qui s'enchaîne avec la musette. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait toujours le retour de la première danse. C'est le moment du retour du menuet. Mais le génie de Ravel, c'est d'avoir imaginé que le thème du menuet, donc donné par le hautbois d'Olivier, allait se superposer à la musette, une sorte de tuilage, la musette qui est maintenant en majeur. Donc on va écouter juste cette superposition merveilleuse entre la musette en majeur aux cordes en sourdine et puis le retour du menuet au hautbois solo. Un extraordinaire tuilage, et puis alors après... le menuet va se poursuivre jusqu'à la fin de la pièce. Alors, je vous propose maintenant d'écouter en entier ce menuet, dont je vous rappelle les étapes. D'abord, le menuet proprement dit, principalement joué par le hautbois solo, puis la musette en mineur majeur, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec son accompagnement en bourdon, une montée d'angoisse, et puis la dernière citation du thème de la musette en majeur, avec la superposition du retour du menuet joué par le hautbois solo. Menuet du tombeau de Couperin. Quel délicieux menuet, quel menuet au second degré, quel menuet tendre. Et en l'écoutant, je me disais, si on ne devait retenir qu'une chose à chaque fois de chaque danse de ce tombeau de Couperin de Maurice Ravel, c'est toujours ce petit noyau rythmique. Là, c'était pam-ta-ta-tam, pam-ta-ta-tam, pam-pa-ta-tam. Vous vous rappelez, dans la Forlane, c'était pam-pa-pam-pim, pam-pa-pam-pam. Et dans la danse qui va suivre, la danse qui termine le tombeau de Couperin, le rigodon, là aussi, nous allons retrouver un noyau rythmique très caractéristique et qui fait tout simplement tagadagadam. Tagadagadam, vous allez voir, je vous le joue de mon piano. Takatakata. 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 Tagadagada, tantin, 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 tagadagada. Eh bien, c'est la même chose dans le rigodon de Ravel. Vous allez l'entendre maintenant, je vous propose qu'on joue le début du rigodon et tout le temps vous aurez ce tagadagada qui va caractériser ce rigodon moderne. Ça, c'était le tout début du rigodon du tombeau de Couperin. Et nous avons parlé depuis le début de la séance d'harmonie. Nous avons parlé d'histoire, du contexte de l'œuvre. Nous avons parlé des danses. Nous avons parlé d'orchestration, bien sûr. Mais nous n'avons pas encore parlé de la manière dont se déroule le discours musical lui-même. En effet, comment est-ce qu'un compositeur fait une fois qu'il a une idée pour élaborer son discours musical? Forcément, il répète. Il répète le rythme, il répète les phrases, parce que s'il n'y a pas un minimum de répétition dans la musique, eh bien la mémoire ne peut pas fonctionner. Mais d'un autre côté, si on ne fait que répéter, n'en déplaise à certaines musiques actuelles, eh bien, au bout d'un moment, c'est un peu fastidieux, c'est un petit peu monotone. Donc, la composition, c'est toujours un art qui mêle la répétition et la variation. Et je vous propose d'entrer peut-être dans le détail de la composition en examinant comment Ravel va varier petit à petit les deux éléments principaux de son rigodon. Il y a d'abord petite fanfare qu'on entend bien d'ailleurs à la trompette que j'appellerai l'appel. Peut-être parce que c'est écrit pendant la Première Guerre mondiale, moi j'imagine un petit appel de trompette qui appelle tous les soldats, enfin peu importe, en tout cas on a cette formule très caractéristique, ces deux premières mesures, on l'écoute à l'orchestre. Juste après, Ravel le modifie légèrement, il va doubler le pam-paradam, mais il ne fera pas le tagadagadam, ce qui donne... Encore quelques mesures plus loin, et nous n'aurons plus qu'un seul pam-paradam. Et vers la fin de la pièce, nous allons retrouver la formule complète, pam-paradam, tagadagadam, mais dans une autre tonalité un peu plus grave, dominée par les cordes. Et donc, il y a un deuxième élément, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans le rigodon, c'est une sorte de moulin. Tagadagadagadam, tagadagadagadam, tagadagadagadagadagadagadagadam. Il y a toujours alternance entre ce que j'appelle l'appel et le moulin. Donc, écoutons déjà ce moulin par les cordes qui entraînent l'orchestre dans un grand crescendo. Peu de temps après, le moulin est légèrement modifié pour notre plus grand plaisir, puisqu'il est confié principalement au basson. Vous notez la petite modification rythmique, hein, au lieu de faire toujours tagadagadagadagadagadagadagada, maintenant c'est devenu tagadagadagada ta 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 ta. Et nous allons retrouver cette même modification rythmique, un tout petit peu plus puissante cette fois-ci, puisqu'elle est confiée au cuivre, corps, puis trompette. « Et enfin, tout doux, dans l'aigu de l'orchestre, une orchestration vraiment que j'adore, scintillante, les flûtes accompagnées par la harpe, avec un crescendo comme un coup de vent qui va entraîner tout l'orchestre. Et à ce moment-là, qui est-ce qui va avoir le dernier mot ? Est-ce que c'est le moulin ou la pelle ? Ce sera la pelle. Donc les deux dernières mesures du rigodon sont les mêmes que les deux premières mesures, à savoir... Voilà comment, avec deux éléments que j'ai nommés la pelle et le moulin, mais on pourrait trouver d'autres mots évidemment pour les caractériser, voilà comment Ravel, par un système d'alternance, de répétition et de variation, fait avancer le discours musical. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait du menuet, il y a souvent une deuxième danse qui suit la première. Et quand la première danse est plutôt énergique, la deuxième est en général plus reposante, plus mélancolique. Peut-être qu'au départ, c'était une manière de reposer un peu les jambes des danseurs avant de reprendre la première danse. Donc, cette deuxième danse, eh bien, c'est une sorte de sérénade mélancolique. Nous allons retrouver le hautbois. Il s'embêtait un petit peu pendant le rigodon. Menuet, il était tellement mis en valeur que voilà qu'il reprend son rôle de soliste. Une sérénade mélancolique. Et vous savez, quand on dit sérénade, on pense tout de suite au chanteur qui s'accompagne à la guitare. Là, il n'y a pas de guitare dans l'orchestre, mais Ravel imite la guitare par une partie des cordes qui font des pizzicato. Donc, nous écoutons un petit peu de cette sérénade mélancolique. Une mélancolie particulière. J'ai l'impression que le hautbois a la larme à l'œil et en même temps il est un peu goguenard, comme s'il se moquait de lui-même. Maintenant, je pense qu'on peut écouter la pièce dans son entier. Donc, bien sûr, tout d'abord le rigodon avec l'alternance que nous avons détaillée entre la pelle et le moulin, puis la petite sérénade mélancolique du hautbois et cor anglais, et le retour pour terminer du rigodon, dernière pièce du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Pascal Roffet.
C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Thibaut Perrine. À la semaine prochaine.